Bonjour à tous. Merci à tous ces artistes qui nous ont conduits jusque maintenant. Les artistes visuels et les artistes pour nos oreilles. Tout ça vient de Dieu. Moi, je ne suis qu'un petit bout d'argile qui, bien souvent, n'a pas la forme que le potier voudrait. Que j'ai. Et ce matin, nous voudrions encore écouter un peu sa parole. Pendant le moment de prière, avant le culte, et oui, pour ceux qui ne savent pas, le culte ne commence pas à 10h30, mais un quart d'heure, 20 minutes avant, dans une salle derrière, par un temps de prière. Pour se préparer et pour invoquer aussi notre Dieu pour qu'il nous parle. Ce temps est ouvert. Et d'ailleurs, le culte ne commence pas non plus à 10h10 ou 10h15. Je crois qu'il a commencé dès ce matin, quand vous vous êtes levé, pour vous mettre dans la disposition d'écoute du Seigneur. Et puis, dans ce moment de prière, Lydia a prié, je crois, en disant, en remerciant simplement pour cette belle journée. Et ça m'a fait un peu écho parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime l'été. Et depuis le mois de juin, j'ai beaucoup tendance à me plaindre parce que je ne vois pas toujours l'été. Et finalement, ce matin, je me suis dit, ben, quand il y a une journée comme ça, quand il y a une journée comme hier, ben, combien on l'apprécie. Alors que quand c'est tout le temps là, est-ce qu'on y prend en garde à ce que Dieu nous donne? Est-ce qu'on prend garde à ces moments de culte? Le dimanche matin, à cette grâce infinie que Dieu nous fait d'être là, en liberté, de ce temps qu'il a mis à part, dès la création, pour nous, pour venir en sa présence. Ouais. Posons-nous la question quand nous venons au culte le matin. Est-ce que vraiment nous prenons conscience de cette grâce et de ce privilège que Dieu nous fait de pouvoir venir le louer, l'adorer en premier lieu et l'écouter? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. C'est un passage, une première partie des 2 Corinthiens. Père, nous voulons te rendre grâce, c'est vrai, de ce que ce matin tu nous as invités de toute éternité à venir ici, Seigneur. Et Seigneur, tu nous invites de toute éternité, de toute notre vie à venir en ta présence. Seigneur, ce matin, nous voulons écouter ce que tu as à nous dire pour cette vie que nous voulons vivre avec toi, Seigneur. Et Seigneur, comment mieux t'écouter qu'en plongeant nos yeux dans ta parole? Parole que tu nous as donnée, Seigneur Jésus, toi qui es venu jusqu'à nous, toi qui es la parole, toi qui es venu accomplir toutes choses pour nous conduire au Père. Et ce matin, Seigneur, c'est par ta parole, c'est par ton esprit que nous voulons être conduits au Père et te prions que tu ouvres vraiment nos cœurs, que tu libères nos esprits. Seigneur, je te prie que, même si je n'ai pas grand-chose à dire personnellement, que ce soit vraiment ta parole qui parle, Seigneur, à chacun d'entre nous. Sois béni, Seigneur, pour ces moments que tu nous donnes de pouvoir ensemble, en communion, plonger nos regards dans ta parole. Amen. Regardant les Jeux Olympiques ces jours, je pense que je ne suis pas le seul, moi j'aime ça. Je réfléchissais quand je voyais des fois la détresse de ceux qui, après une tension énorme, une préparation énorme, avaient échoué, entre guillemets, puisqu'ils n'avaient pas atteint la plus haute marche du podium. J'ai été surpris de voir des deuxièmes avec une médaille d'argent être défaits parce qu'ils n'avaient pas atteint la plus haute marche du podium. Et puis de voir aussi cette joie de ceux qui sont au plus haut et qui, et peut-être aussi des fois des seconds et troisièmes, qui eux ont atteint quelque chose de fort, et de voir cette joie réelle. J'ai pensé à Paul qui nous dit que notre vie chrétienne doit être à l'image de ces athlètes qui se préparent, qui travaillent avec acharnement pour atteindre ce but. Et que, un petit peu à l'inverse de ces athlètes, tout ce temps, ces temps difficiles de notre vie, souvent, ce combat pour vivre dans le Seigneur et de ces moments de détresse, de difficulté. Et Paul le dit quand il parle de ça, il dit « j'ai pas atteint le but, je cours encore et nous allons courir encore jusqu'à ce que le Seigneur revienne. » Mais réfléchissons à ce moment où il va revenir, lorsque nous aurons atteint ce but. Alors cette joie ne sera pas celle d'un moment sur une petite marche d'un podium, même si c'est une grande joie qu'ils vivent là. Ensuite, ils redescendent sur terre. Mais nous, lorsque nous aurons atteint ce but, cette joie sera éternelle et ne s'effacera plus jamais. Alors, dès aujourd'hui, nous voulons penser à ça. Il y a quelques semaines, j'avais parlé de façon un peu trop dense, semble-t-il, et un peu longue, d'une allégorie de Goshen en comparant à l'Église, à notre marche, à notre en Égypte. Hein, nous vivons en Égypte, mais nous ne sommes pas de l'Égypte, et nous sommes un peu à part, nous sommes l'Église, l'épouse du Christ. Et nous avions dans Pierre, regardé un petit peu les encouragements à être cette Église. Et puis, en réfléchissant à aujourd'hui, non pas que ce message fait suite, mais il fait suite à ce que le Seigneur me donne dans ces temps. Oui, ce peuple a quitté l'Égypte et s'est mis en marche vers la terre promise, vers Canaan. Mais je me suis posé la question, ce peuple finalement, avait-il soif de cette terre promise ? J'en suis pas sûr, parce que lors de la découverte des géants dans le pays, ils ont renoncé à y aller. Ils ont juste fui l'Égypte, l'esclavage, difficulté du moment, mais l'ont souvent regretté, car ils ne désiraient pas suffisamment la terre vers laquelle ils marchaient, ne s'intéressant qu'à leurs circonstances présentes. Ne sommes-nous pas dans le même fonctionnement et dans les mêmes circonstances de marche? Pourtant, dans Hébreux 9, on lit au verset 11, « Il, Abraham, y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car ils attendaient, la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Et la semaine passée, c'est Jean-Paul qui nous parlait sur Romains 8, de ce monde, avec tout ce que nous vivons, ces temps difficiles qui nous entourent. Et si je peux juste résumer ce dont il était question, c'est le verset 38 qui le résume. Hein. « En fait, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et j'ai lu aussi cette semaine dans 2 Timothée 3, au verset 12, « Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ, seront persécutés. Tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soient formés et équipés pour toute œuvre bonne. Alors, l'homme de Dieu, c'était Timothée, bien sûr, ce n'est pas pour nous. Ou alors, éventuellement, pour vous ce matin, ça peut être moi. Mais je crois que ce message, ce texte s'adresse à nous tous. Nous sommes tous les hommes de Dieu. Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. C'est dans cet équipement, dans cette marche difficile, en Égypte où nous sommes, avec tout ce qui nous entoure et avec tout ce qu'on vient de partager déjà maintenant, que nous voudrions ce matin plonger un tout petit peu nos yeux dans Jacques, juste un partage, pas de gros développement, mais pour venir à un point central que déjà vous avez sûrement compris, que je partagerai peut-être en fin de message. Mes frères et sœurs, Jacques 1, pardon, verset 2, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Ah, ça nous... Il y a un verset juste derrière. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Et moi, quand je lis ça, ça me déglingue. Parce que j'ai bien l'impression d'être souvent un homme partagé et instable. Et dans Hébreux 11, 6, on lit encore, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Et au chapitre 12, verset 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons le tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Mais voilà un verset qui arrive et qui nous pousse en avant. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et mène à la perfection. Gardons les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et mène à la perfection. Poursuivons dans Jacques au verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs, puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché et le péché parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. Ce passage semble décalé un petit peu de ce qu'on a lu avant, peut-être de ce qu'on va lire après. Mais j'ai pensé à ce que Jésus disait dans Matthieu, là où est ton trésor, tes pensées, là aussi sera ton cœur. C'est Matthieu 6, 21. Et au verset 22, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes ?» Et un peu plus loin, dans Jacques 4, au verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu !» Et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, homme partagé. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Petit bout d'argile que nous sommes, humilions-nous devant le Seigneur et il nous façonnera pour être ce vase qu'il veut. On revient dans Jacques 1, verset 19. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère ou à juger, critiquer. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté. Et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Ces versets qui viennent sont pour moi un rappel permanent depuis bien longtemps maintenant, au verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. On en revient à ce qu'on disait de Paul qui parle des athlètes. Celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Au risque de vous surprendre, je vais déjà arriver à la conclusion. Pas pour équilibrer la dernière fois, mais parce que je voulais laisser le Seigneur nous parler. Faire un message, ce n'est pas toujours facile. Mais ça peut devenir facile. Quand on prépare un message, on est repris par ce qu'on vous partage avant, pendant et après. Moi, ça m'arrive bien souvent. Et encore aussi dernièrement, après vous avoir apporté la marche de l'Église dans le monde de l'Égypte il n'y a pas longtemps. Finalement, que le Seigneur me dise, tu te rappelles ce que j'ai mis dans ton cœur et que tu as partagé? Jean-Daniel était là il y a peu de temps, il encourageait les jeunes, mais nous tous, à prendre des notes. Moi, je vous encourage à le faire. Parce que il peut arriver que quelqu'un soit un peu long, perd le fil, ou on n'est pas dans un bon jour. Mais moi, je vous encourage même, on a, grâce à notre technologie, un enregistrement et un site sur lequel on peut retourner, je vous encourage aussi à aller réécouter ces messages. Parce que je crois qu'aucun de ceux qui viennent ici, je ne dis pas ça pour moi, ne sont à côté de la plaque quand ils viennent vous parler. Peut-être que vous allez les trouver trop courts, trop longs, trop simple, trop difficile, qui vous endorme, mais ceux qui viennent ici ne sont jamais à côté de la plaque. Dieu a quelque chose qu'il a mis dans leur cœur et qu'il veut mettre dans le vôtre. Et si vous n'avez pas été touché à ce moment-là, alors moi je vous invite à réécouter ces messages, parce que Dieu a des choses à nous dire. Jean-Paul disait qu'il était surpris la dernière fois, et on est souvent aussi comme ça de voir comment Dieu conduit les choses avec la louange, même des fois sans qu'on ait préparé. Et moi, je suis surpris de la même façon de voir comment Dieu, sans qu'on ait de trame, de prédication réelle, combien Dieu, dans des périodes données, nous parle au travers d'hommes différents pour nous emmener à quelque chose qui veut nous faire voir à ce moment-là. Et comment les messages qu'il nous apporte sont là pour nous parler de façon importante. Et d'autant plus dans ces temps que nous vivons, où nous avons besoin d'être ces contre-cultures, où nous avons besoin de marcher derrière notre berger vers cette patrie, et où nous avons besoin d'apporter quelque chose, une alternative à ceux qui sont sous le joug des méchants et qui sont encore asservis à cette Égypte et qui courent à leur perte. Je repense à ce verset de Matthieu tout à l'heure. C'est ce que je voulais partager ce matin particulièrement. C'est pour ça que j'ai aussi beaucoup donné de versets. C'est l'importance de la lecture de la parole. J'aimerais que tous, les plus jeunes comme les plus âgés, comme moi-même, nous ayons vraiment cette habitude de nous nourrir. Paul disait qu'il n'était pas arrivé, qu'il n'avait pas encore atteint le but, qu'il devait courir vers ce prix. Et même quand nous avons des années de lecture de la Bible, quand nous avons même étudié en profondeur, nous ne sommes jamais arrivés. Nous ne pouvons pas nous dire « maintenant j'arrête de lire la parole ». Nous ne pouvons pas nous dire « je connais toute chose ». Comment le Seigneur peut-il nous parler par son esprit si nous ne sommes pas nourris de sa parole? L'esprit prend de ce qui est de Jésus et nous le donne, de la parole. Et à aucun moment nous ne pouvons nous satisfaire de ce que nous avons. Nous avons à plonger nos yeux en profondeur, toujours, encore et encore, dans cette parole. Pour pouvoir vivre comme ce peuple, comme un peuple à part, même s'il est encore dans le monde, dans l'Égypte. Un peuple en marge, mais pas totalement. Un peuple qui est dans ce monde, qui est mis à part, mais qui marche vers la cité céleste. Nous avons vraiment besoin de cette nourriture afin d'attacher nos cœurs et nos esprits à ce trésor sans pareil. Quand on pense à la nourriture physique, on l'entend souvent de la part des enfants, mais aussi des fois des plus grands, qu'on n'aime pas cet aliment ou un autre, ou qu'on n'a pas faim. La plupart du temps, c'est parce qu'ils n'y ont pas goûté. Et puis certaines fois, même quand on mange, pas vraiment conscience de ce que ça nous apporte. Le goût est intéressant, au moins intéressant. Mais pourtant, on sait que, une fois que ça atteint nos organes, là, ça va nourrir notre sang, ça va nous nourrir. Eh bien oui, quand on lit la parole, il peut arriver qu'on n'aime pas trop ce qu'on y a goûté. Et puis même quand on lit, on a l'impression que les paroles qu'on lit, ça ne nous apporte peut-être pas grand-chose. Mais mettons-nous dans la tête que ces paroles que le Seigneur a mis dans sa révélation, qui veut que nous en emparions, elles vont faire leur effet aussi. Elles vont rentrer dans nos esprits et dans nos âmes. Et elles vont nourrir cet esprit. De façon à ce que, dans cette marche difficile, nous puissions garder les regards tournés vers lui. Nous puissions nous tourner vers lui et résister au diable. Parce que si nous n'avons pas cette nourriture quotidienne et permanente, rien de ce que nous avons déjà fait avant ne nous suffira pour résister au diable, pour nous tourner vers le Seigneur. Alors moi j'encourage, encore une fois, peut-être les plus jeunes qui n'ont pas cette habitude, souvent la génération d'avant moi et la mienne, on avait cette habitude de lire, mais on lit pas pour lire. On lit parce que c'est la parole de Dieu. Et on la lit dans son ensemble. Moi, je vous encourage, Jean-Daniel l'a fait avec les jeunes et ils l'ont dit et ça les a interpellés. Il y a plusieurs façons de lire la parole, mais il est important de la lire dans son ensemble et de la lire régulièrement, d'un bout à l'autre, et d'y revenir, et si possible plusieurs fois par an. Si c'est déjà une fois par an, c'est déjà pas mal. Mais certains ont été surpris du fait que Jean-Daniel parlait sans notes, en disant « il est doué ». C'est un enseignant, c'est sûr. Mais Jean-Daniel, il lit la parole complètement, deux fois par an, et ce depuis plusieurs années. Ce n'est pas un rituel, ce n'est pas une obligation, mais c'est parce qu'il a les yeux plongés dans cette parole que le Seigneur peut s'emparer de ce qui est entré dans son cœur et dans son esprit et le retransmettre. Et il veut ça pour nous tous, pour nos vies, pour nos décisions, mais aussi pour ce qu'on a à faire, pour parler à ceux que nous allons interpeller. Cette parole, oui, elle est primordiale, essentielle. Plongeons nos regards dedans. On peut la lire de plusieurs façons. Je proclame que cette façon de la lire systématiquement est importante. Mais à d'autres moments, on va la lire de façon allégorique. On va lire des psaumes parce que ça nous fait du bien. À d'autres moments, on va lire simplement un ou deux versets et les méditer. Nous avons besoin de la méditer, cette parole. C'est ça qui va nourrir notre esprit. Comme on a besoin de mâcher ce qu'on mange, on a besoin de méditer la parole. Et tout ça, c'est important. Peut-être que la méditation ou la lecture allégorique, elle est moins régulière. Mais je vous encourage. C'était mon but ce matin. Et je m'encourage le premier à lire cette parole, à s'en nourrir, à la lire dans son ensemble et à garder les yeux tournés vers notre Dieu. Et le diable fera l'un de nous, loin de nous, et nous serons une alternative dans ce monde qui nous fait peur, comme on l'a dit dernièrement, mais dans lequel nous sommes et où nous avons cette parole de Dieu et cet évangile à apporter. Que le Seigneur nous conduit, c'est lui qui nous donne cette foi, c'est lui qui nous aide à le faire, c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire, parce qu'il y a un peu de discipline à avoir, comme les athlètes, pour courir vers ce but. Amen. Père éternel, nous voulons te rendre grâce de toute éternité. Tu nous as préparés pour être en relation avec toi. Et Seigneur, malgré notre chute, tu es venu toi-même jusqu'à nous pour rétablir ce lien, cette relation. Et Seigneur, tu es venu, toi par qui tout a été créé, toi qui es la parole, tu es venu pour nous enseigner et tu nous as envoyé l'Esprit pour la mettre dans nos cœurs, Seigneur. Et maintenant, tu marches devant nous pour nous emmener dans cette cité céleste. Et Seigneur, je te prie que tu nous accompagnes dans cette marche, que tu nous accompagnes au travers de ta parole et que par ton Esprit, tu rendes cette parole vivante dans nos cœurs et que nous puissions la mettre en pratique, Seigneur, pour que d'autres qui marchent à leur perte se mettent à marcher avec nous, à notre suite, Seigneur. Seigneur, nous nous attendons à toi. Te demandons de nous parler. Te demandons que nous soyons aptes à t'écouter. Nous te demandons que nos cœurs soient ouverts. Nous te demandons que nous sachions nous humilier, comme tu nous l'as dit ce matin dans ta parole, pour que tu puisses transformer dans ces vases d'argile, en ces vases d'argile dans lesquels tu vas mettre ton trésor. Par ton nom, Seigneur Jésus, c'est notre prière. Amen.
Je partage avec vous les annonces du programme de la semaine. Mardi, j'avais repéré qu'il y avait la rencontre des jeunes adultes. C'est juste. Ouais. Jeudi, on a la chorale, mais contrairement à ce qui est indiqué, c'est à 20h. 20h, chorale. Samedi, on a la bénédiction du mariage de Sandy et Elodie. Je vais laisser Jean-Paul faire les annonces pratiques par rapport à cela.
Alors, je refais l'annonce que j'ai fait dimanche passé, c'est que Sandy et Elodie comptent sur la famille de l'Église pour leur mariage. Donc vous êtes invité, la famille de l'Église, vous êtes invité et vous êtes, ils comptent sur votre présence pour ce temps de bénédiction de leur mariage. Et puis pour des raisons pratiques, on en a déjà parlé, c'est, on partage tout ce jour-là, on partage leur amour. On partage cette bénédiction et on partage le repas aussi. Donc, c'est un repas canadien. Bon, il y a des Canadiens ce matin-là. Je ne sais pas si ça correspondra à leur repas. Mais c'est un repas qu'on appelle, nous, un repas canadien. C'est-à-dire, on va tout amener sur la table et tout partager. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous vous inscrivez là au fond pour dire ce que vous apportez. C'est hors boisson, hors dessert et hors apéro. Donc tout le reste, soyez les bienvenus, il y a moyen de faire des grillades, donc amener de la viande, il y aura des barbecues qui seront chauds. Donc voilà, on met tout sur la table et chacun se sert et mange avec joie avec Sandy et Elodie. Mais pensez bien, si vous ne l'avez pas fait, à marquer, pour qu'on, simplement pour s'organiser un tout petit peu, qu'on n'ait pas tous des petits pois par exemple, et que des petits pois. Enfin c'est bon les petits pois. Voilà les gourmands. Apporte déjà avant, le dessert c'est après. Voilà, donc on se réjouit encore et on veut aussi prier qu'il fasse beau, parce que tout se passera dehors s'il fait beau. Voilà, il fera beau. Priez, il fera beau.
Voilà, merci. On se réjouit de passer ces moments ensemble. Il reste un tas d'affaires du club d'été qui sont encore dans la petite cuisine à l'étage. Alors allez faire un tour, prenez ce qui vous appartient. On aimerait bien peut-être ce qui vous intéresse aussi. Voilà, on aimerait bien faire de l'ordre.
Sinon on donne après.
Voilà, ouais. Des nouvelles des personnes qui nous sont chères et qui souffrent aussi. Continuons de penser à Loulou. Loulou est toujours à Chalet. Voilà, Loulou attend son départ vers son Dieu, vers son Sauveur, vers son Seigneur. Pensons à lui, pensons aussi à Ruth. Ce sont des moments, voilà, les moments de fin de vie qui sont particuliers. Et c'est important aussi de penser les uns aux autres par rapport à cela. Pour Roland, pas beaucoup de grands changements. Voilà, toujours des maux de tête de temps en temps. Un confort tout à fait relatif. Le temps est long à passer. Il attend son prochain rendez-vous le 23, donc chez la cardiologue, pour la suite. On continue de penser à Didier et Loredane, qui sont parmi nous. Voilà. Didier est en phase de reprise de poids. Certains voudraient en perdre, d'autres ont besoin d'en reprendre. Ben Didier, on pense vraiment à toi. Loredane me disait ce matin qu'il reprend 2 kilos par semaine. Waouh, c'est bien que cela continue, que Dieu continue à te garder aussi dans ta santé, dans la paix aussi, dans sa présence. Cette semaine, on vous invite à prier pour les chrétiens du Mali. Comme chaque semaine, on vous invite à prier pour un pays dans lequel il y a de la persécution et pour les chrétiens qui sont dans ce pays. Et c'est pour les chrétiens qui sont dans le Mali qu'on vous invite à prier. Sinon, s'il n'y a pas d'autres informations à partager. Oui, oui, juste. Ouais. Ouais, donc. Ouais. Et pas bon. Ouais. Continuons de penser à Annelise, c'est vrai. Que Dieu la fortifie, lui donne aussi sa patience. C'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'elle est atteinte dans sa santé, qu'il la renouvelle et qu'il la conduise. Sinon, je vous invite à vous lever. Je vous lis encore deux versets dans Psaume 40. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse que l'Éternel est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.